Ils sont suroccupés, épuisés, nerveusement pressés de réussir. De plus en plus d'enfants souffrent, paraît-il aujourd'hui, de burn-out, terme pourtant jusque-là utilisé pour les adultes. Certains psychologues tirent la sonnette d'alarme et dénoncent la pression phénoménale qui s'exerce sur les plus jeunes. C'est le dossier de la tête au carré pour comprendre pourquoi se manifeste parfois une énorme fatigue physique et intellectuelle chez les enfants et comment, bien sûr, faire en sorte d'éviter le surmenage. J'attends vos questions, vos témoignages sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Selon une étude publiée cette semaine, plus du tiers de la population mondiale ne peut plus voir la Voie lactée en raison de la pollution lumineuse. Et c'est à la une de la science, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, une nouvelle étude et une nouvelle carte qui montrent que la pollution lumineuse se globalise. Des chiffres en forte hausse qui font réfléchir autant que frémir. On en parle dans un instant.
Et Stéphanie Texier réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Dylan Beiner.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le burn-out des enfants, c'est donc le dossier dans un instant de l'émission avec mes invités Béatrice Millettre et Philippe Jamet. Bonjour, bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Béatrice Millettre, comment peut-on savoir que les victimes du burn-out infantile sont de plus en plus nombreuses?
Tout simplement parce qu'on les voit arriver dans nos bureaux de plus en plus nombreux. Quand auparavant on en avait un de temps en temps, maintenant on en a plusieurs par semaine.
Ouais. Donc vous êtes amené à vraiment vous occuper de ces cas particuliers en ce
tout
moment.
Tout à fait, tout ouais. à fait.
Philippe Jamet, est-ce que les adultes ne seraient pas en train de déteindre sur leurs enfants en leur transmettant leurs angoisses?
Ah ben, vous savez, l'enfant, c'est le miroir des adultes. Il y a un miroir quelquefois un petit peu grossissant, un peu déformant, mais c'est notre miroir. Donc ils sont construits, ils naissent pas comme ça, ils sont construits, tous construits avec l'environnement. Donc voilà, c'est notre reflet. Alors c'est naturel qu'effectivement, dans la pression actuelle, les enfants aussi la subissent. Je pense que c'est important d'ailleurs d'attirer l'attention. Alors après, voilà, c'est toujours comment on le fait, qu'est-ce qu'on en fait, mais bon, il y a un vrai problème.
Et puis on mettra quelques nuances aussi quand même à ce phénomène avec vous dans quelques instants pour en discuter avec les messages des auditeurs.
Voie lactée aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts, suivrons-nous d'un en ton cours vers d'autres nébuleuses.
Voilà, c'était la voix de Jean-Louis Trintignant pour évoquer à la une de la science le travail de scientifiques italiens et américains qui dressent cette semaine dans la revue Science Advances un nouveau bilan de l'éclairage nocturne vu du ciel. La pollution lumineuse à l'échelle mondiale, et bien depuis 2001, la situation s'est fortement dégradée. Bonjour Jean-Philippe Ciblet.
Bonjour.
Vous êtes directeur du service du patrimoine naturel au Muséum National d'Histoire Naturelle. Un terrien sur trois donc qui ne voit pas la Voie lactée. C'est ce chiffre mis en avant partout par les auteurs de ces travaux. Chiffre important, désolant d'ailleurs aussi.
Oui. Oui, désolant. Ça fait à peu près 30 ans que les premiers cris d'alarme ont été lancés par les astronomes qui étaient gênés dans leurs observations scientifiques. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu que cette pollution lumineuse posait des problèmes tout à fait considérables pour la faune, la flore, et puis pour nous, êtres humains, qui sommes des animaux qui avons besoin d'un rythme d'alternance entre le jour et la nuit et qui sommes particulièrement gênés par cette pollution qui s'étend.
Et c'est une observation très symbolique aussi pour l'humain. Hein.
Absolument, c'est tout à fait symbolique. Il faut savoir que au-delà de l'aspect scientifique et des conséquences désastreuses que ça peut avoir, il y a tout un tas de sociétés humaines qui ont besoin de voir le ciel pour pouvoir assouvir leurs rites, que ce soit des rites sociaux, des rites culturels, des rites religieux. Et nous qui en sommes privés, n'en ressentons pas la gêne. Mais quand on lit les écrits des poètes, des écrivains, on voit bien que voir le ciel, c'est important.
Quelles sont les principales causes de cette augmentation de la pollution lumineuse?
Alors, clairement, c'est le développement de l'urbanisation et l'augmentation de la population. On voit bien, par exemple, que entre les premiers atlas qui ont été publiés et l'atlas qui est diffusé aujourd'hui par Science, des continents comme l'Afrique se sont éclairés complètement. Et il faut bien voir qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, quand on a une élection à quelques titres que ce soit, les gens réclament de leurs candidats l'électrification et la lumière.
Ce qui est normal.
Ce qui est tout à fait logique. Donc ils ont un peu de mal à comprendre, d'un côté, la lumière qui est pour eux un bénéfice tout à fait important, qu'on puisse éventuellement leur conseiller de ne pas l'avoir, alors que...
Juste pour regarder les étoiles.
Juste pour regarder les étoiles.
Le message est difficile à faire passer.
Voilà, oui. Ou pour protéger la faune et la flore.
Oui, l'Afrique et l'Asie d'ailleurs.
Hein, l'Afrique et l'Asie, et puis également l'Amérique du Sud. Ouais. Et c'est assez curieux de regarder sur cette carte et de s'apercevoir qu'il ne reste plus maintenant que deux tâches importantes où on a encore le noir, c'est le Sahara, ouais. Et puis l'Amazonie.
Et les océans quand même, non ?
Et les océans aussi, effectivement.
Comment est-ce qu'on mesure cette pollution ? Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on parle directement de pollution ou c'est plus compliqué que ça ?
C'est plus compliqué que ça, il n'y a pas de seuil. À partir du moment où on éclaire un endroit qui n'a pas vocation à l'être, on peut considérer que le secteur est pollué par cette pollution. Bien évidemment, l'intensité joue un rôle. Alors, il y a l'intensité, mais il y a aussi la durée, parce que c'est deux paramètres qui rentrent en ligne de compte. On peut tout à fait imaginer d'éclairer un monument, par exemple, mais dans beaucoup d'endroits, ça ne justifie pas de l'éclairer toute la nuit. Donc, les deux phénomènes se conjuguent. Mais les espèces, par exemple, certaines espèces animales peuvent être sensibles à des éclairages très diffus. Il faut savoir que dans le désert, une bougie, ça peut se voir à plusieurs kilomètres de distance.
Quels sont, parlant de la faune, les meilleurs exemples de pollution très gênante pour la faune qu'on connaît là? Qu'on a renseigné.
Celui qui est le plus évident et auquel tout le monde pense, c'est les insectes qui tournent autour des réverbères. Alors, ça peut paraître rien, mais c'est des quantités absolument astronomiques. Hein. Ça a été calculé, peu importe les chiffres, mais enfin, c'est des proportions tout à fait considérables. Voilà. Autre problème, par exemple, les oiseaux. Les oiseaux qui sont déroutés et qui ont, eux, besoin des astres pour pouvoir faire leur navigation, qui sont déroutés et qui peuvent entrer en collision. Il y a l'exemple célèbre, par exemple, des lasers qui ont été installés à la place des tours détruites le 11 septembre à New York. Et donc, ça occasionne des très très graves perturbations. Autre exemple, les tortues marines. Les tortues marines qui sont perturbées par la pollution lumineuse qui est issue du littoral et qui n'arrivent plus à retrouver leur chemin vers la mer. Et on pourrait multiplier les exemples.
Il paraît que les oiseaux se lèvent de plus en plus tôt le matin à cause de ça aussi, et que ça perturbe leur vie et leur cycle.
Surtout, il y en a certains qui ne se couche plus. On va avoir des champs, par exemple, je pense que si vous êtes un peu observateur, vous avez dû le constater, des merles ou des rouges-gorges qui chantent en pleine nuit. Ouais. Alors, c'est pas forcément très très bon à terme.
Ouais. Est-ce que la santé des hommes est impactée par cette pollution
lumineuse ? Oui, bien sûr. Alors là, il y a des études épidémiologiques qui ont été menées sur cet impact et on commence à avoir des éléments assez inquiétants. Il faut savoir que l'alternance du jour et de la nuit est très importante, notamment la nuit pour la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et cette mélatonine joue un rôle anticancéreux tout à fait important. Alors il faut, attention, ne pas être alarmiste. Hein. Pour l'instant, on est au début.
On sait que tout ça est multifactoriel aussi. Ouais,
exactement. Donc il faut
donc
quand
la
même
part, la part réservée il faut être à la très lumière, prudent. Voilà.
Mais d'ores et déjà, il y a un certain nombre d'études, des colloques qui ont été faits sur le sujet. Il y a une certaine unanimité du monde de la recherche pour dire qu'il faut en tout cas être très prudent et qu'au titre de la précaution, il est bien d'avoir des vraies nuits.
La dernière étude concernant la pollution lumineuse globale était en 2001. Est-ce qu'il y a des bons élèves depuis 2001 qui ont fait des efforts ?
Alors les bons élèves, pour une fois, on peut peut-être faire un petit cocorico en cette période d'euro et dire que la France n'est pas si mal, puisque la France a lors de la loi Grenelle 1, pris une législation assez courageuse pour limiter les impacts de cette pollution. Donc il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment dans les pays industrialisés. On sait que si on regarde cette carte, on voit bien que la Belgique et la Hollande, par exemple, sont eux de très mauvais élèves parce qu'ils ont pris le parti, par exemple, d'éclairer tout leur réseau routier, ce qui est absolument une pollution tout à fait considérable. Mais on peut quand même considérer que l'Europe est plutôt en tête par rapport à certains pays. Et l'étude révèle notamment que les États-Unis, eux, sont véritablement très 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 concernés, puisque 95% du territoire américain est concerné par cette pollution.
Il suffit de regarder les images prises depuis les satellites, quand on voit vraiment la planisphère, pour s'apercevoir que c'est très éclairé effectivement dans ces zones du monde.
Est-ce qu'il y a un type d'éclairage qui est plus néfaste qu'un autre ?
Alors oui, il y a des technologies qui sont plus néfastes que d'autres. Ça, c'est aussi un des acquis, c'est-à-dire qu'on a remplacé une partie du parc pour faire en sorte que l'éclairage soit moins attirant et moins nuisant. Mais aujourd'hui, on nous parle par exemple des LED comme étant des dispositifs qui peuvent remplacer avantageusement les éclairages classiques. Il faut être très prudent. Notamment, les LED qui émettent des lumières blanches sont au moins aussi gênantes que l'éclairage classique. Et puis, tout est aussi une question de fréquence lumineuse. Il y a beaucoup de LED qui émettent des fréquences lumineuses qui sont mauvaises à la fois pour l'homme et pour la faune. Donc là, il faut être, à mon avis, très prudent, d'autant que les LED sont globalement moins coûteuses que les éclairages traditionnels, ce qui incite éventuellement à en mettre plus que ce à quoi on aurait besoin.
Merci beaucoup pour vos explications, Jean-Philippe Ciblet. Et puis cette carte dont on parle, Axel, on peut la voir facilement sur Internet.
Hein. En vidéo, sur la page Facebook, on va la mettre en sortant de ce studio.
Merci beaucoup à tous les deux. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, la pollution de l'air prise en compte dans les accidents vasculaires cérébraux. Dans The Lancet Neurology, les scientifiques ont comparé des analyses réalisées dans 188 pays. Entre 1993 et 2013, selon eux, un AVC sur trois serait impacté, entre autres facteurs, par la pollution atmosphérique. Par ailleurs, 90% de ces accidents dans le monde pourraient être attribués à des facteurs de risque modifiables tels que la pollution, mais aussi le tabac, l'alcool, la malbouffe et le manque d'activité physique. Les chercheurs estiment que les trois quarts de ces AVC seraient évitables en modifiant simplement nos modes de vie. Les capacités cognitives ne seraient pas fonction de la seule taille du cerveau. C'est en tout cas le cas pour les oiseaux. Des chercheurs tchèques et autrichiens viennent de révéler que c'est le nombre important de neurones qui pourrait expliquer l'intelligence de certains oiseaux comme le perroquet ara. La cervelle de cet oiseau a la taille d'une noix sans la coque, mais compte plus de neurones que celle d'un mammifère ayant une masse cérébrale de même taille. Les scientifiques ont observé que les oiseaux avaient des neurones plus petits et plus concentrés que certains mammifères, de quoi expliquer la capacité de ces animaux à effectuer des tâches complexes comme la fabrication d'outils pour se nourrir. Et puis enfin, quel est selon vous le plus puissant des super-héros? Eh bien, deux étudiants de l'université de Leicester en Angleterre se sont basés sur des calculs mathématiques pour répondre à cette question. Dans leur étude, ils ont analysé les super-pouvoirs et les faiblesses de 12 personnages issus des univers Marvel et DC Comics. Résultat, ils estiment que c'est Superman qui remporte haut la main le titre de champion des super-héros. Selon eux, ses myriades de pouvoirs dépassent de loin ses faiblesses. Il est suivi de près par Wolverine et par Thor. Le loser de l'étude est Batman, qui arrive en dernière position à cause de sa nature humaine et de son absence de super-pouvoir. Allez, nos enfants sous pression, c'est le dossier dans un instant, juste après les portes claquent et la grande Sophie sur France Inter. Bon après-midi avec nous.
Will you remember my hand caressing the milk of your skin? We'll be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens.
On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe, les années qui défilent et je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, les questions à devenir fou. Vu, vu, vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu, de toute façon on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi, que quelques coups de chevrotine.
On ne s'est jamais revu, vu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, les questions à devenir fou. Vu, vu, vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu, de toute façon on ne se reverra plus.
Oui, je sais, je m'attache au regard, au souvenir. Je les dessine à la gouache quand ils ne savent plus revenir.
Will you remember my hand cursing the milk of your skin? Would be a million anthems to celebrate the love we've seen.
We never met again. Then time goes by, searching through the room where we find the lights. Doors stand over my face, on your tongue, sour taste. Just then, time goes by, we look to the moon, nothing left behind. To hell, we are standing here, cause anyway, we'll never meet again.
Et la grande Sophie à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
et l'épuisement des enfants. Donc dossier cet après-midi pour évoquer ce phénomène qui semble prendre de l'ampleur. Béatrice Millette et Philippe Jamais sont avec nous pour en parler. Béatrice Millette, vous êtes psychothérapeute, vous êtes en charge d'un cabinet de thérapie comportementale et cognitive à Paris. Et vous publiez Le burn-out des enfants, vous employez vraiment ce terme, comment éviter qu'ils ne craquent, aux éditions Payot. Et puis Philippe Jamais, vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez été directeur du service psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut mutualiste Montsouris à Paris. Et vous avez publié Grandir en temps de crise, c'était en 2014. Et puis plus récemment, Adolescents d'aujourd'hui, ils vont bien, merci. Le message est positif alors finalement. Faut-il s'inquiéter de l'état global de nos jeunes?
Mais il faut être vigilant et en même temps ne pas s'inquiéter parce qu'il y a les deux, c'est toujours une tension. Il ne faut pas qu'on se referme sur uniquement un aspect. Tout ce qui est avantage, épanouissement, etc., a son revers. Toute chose a son revers. Et c'est l'équilibre entre ces deux choses et savoir qu'il y aura toujours une tension. Donc il ne faut pas, à un moment donné, réifier. Voilà. Alors, c'est tout le problème. Et c'est vrai que notre mode de communication, et puis parce que ça correspond à un besoin humain très fort, c'est de se rassurer par l'emprise. On sait. Voilà, on sait. Donc on trouve un problème, alors on sait. Et du coup, on va aussi contribuer à créer ce problème. Non pas qu'il n'existe pas, et je trouve c'est pour ça que c'est important qu'on en parle aussi, et en même temps, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ouais, si ça sert à cataloguer et à enfermer, eh bien, ça va accentuer le phénomène. Si c'est simplement dire « soyons vigilants à quelque chose qui risque d'arriver eh », voilà, c'est un avertissement utile.
Parce que c'est évident, c'est que c'est une réalité, voilà. Ça c'est certain. Et que cette réalité, quand on dit « les enfants sont en burn-out », c'est pas pour les laisser comme ça. Et c'est aussi pour moi une grande réalité que de dire qu'à un moment donné, c'est très positif, une fois qu'ils ont craqué, ils repartent ou ils partent tout court dans la bonne direction.
Ouais, l'idée, c'est aussi d'éviter le craquage quand même. Hein.
Quand on peut l'éviter, bien évidemment, mais que d'une manière ou d'une autre, quand on s'en approche ou qu'on a craqué, c'est entre guillemets un mal pour un bien, finalement.
Mais ils ne vont pas rester comme ça tout le temps. Pour vous, les enfants vont moins bien aujourd'hui ?
Alors, ce n'est pas que moi qui le dis. Hein. Moi, quand je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'enfants qui passaient ma porte. Donc je me suis dit, peut-être juste, ils voient la lumière, ils rentrent, ils ont envie de faire un petit coucou. Et j'ai regardé ce qui se passait autour de moi. Alors, on a cette étude de l'UNICEF qui nous dit que 40% de nos enfants 6-18 ans ressentent de la souffrance psychologique. Mmh. Alors, toutes sortes hein, de souffrances psychologiques. Maintenant, on peut aussi, je suis d'accord, ressentir de la souffrance psychologique comme on a un bleu, un rhume, une gastro, et que ça fait partie de la vie. On peut pas avoir une vie tout à fait parfaite en permanence, donc bien sûr. Mais 40%, c'est quand même beaucoup. Vous avez 11% des 12-18 qui ont fait une tentative de suicide. C'est beaucoup. Et effectivement, pour moi, c'est nouveau de voir arriver des enfants qui ont 13 ans et qui ont essayé de se suicider.
Philippe Jamais.
Non, les troubles importants restent à peu près stables hein, depuis un certain nombre d'années, les manifestations. Mais c'est vrai la vie est source de malaise. Hein. Il y a forcément, en même temps que des plaisirs, il y a des souffrances. Aller bien, c'est le degré de tolérance à la souffrance. Et alors c'est vrai qu'à partir du moment où on met en avant la souffrance, et en France on est assez champion là-dessus, je pense au niveau international, là on bat les bas. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des souffrances. Mais le danger, c'est qu'on risque les réifier, en faire une entité. Et voir, si vous souffrez pas, à la limite,
Ça devient inquiétant, presque.
Ça devient presque inquiétant. Ouais. Oui, d'ailleurs, maintenant, il y a des parents qui vous disent, mon adolescent va bien, ça m'inquiète beaucoup. Quand est-ce qu'il va faire sa crise, je vous assure.
C'est ça, on n'a pas le droit d'aller bien. On peut pas dire, moi, je vais bien, tout va bien. Voilà. Non, t'as pas de problème.
Dit, il n'est pas net, quoi. Il voit pas la réalité. Oui, c'est cette tension entre les deux. Il faut sortir d'un système.
Oui, sauf que quand on a des enfants, effectivement, pour moi, on a passé un cap entre le stress et le burn-out.
Alors justement, ça c'est un terme nouveau hein, pour parler des enfants.
Oui, je crois être la première à l'employer pour les enfants, à vrai dire. Et je me suis même pas...
Vous avez bien pesé la
Mais c'est, la voilà, c'est ce qu'on m'a demandé, un de vos collègues m'a posé la question, disant, mais vous avez posé la question, j'ai même pas réfléchi, très honnêtement, parce que quand j'ai vu arriver les enfants, je reçois des adultes aussi dans mon cabinet, en burn-out également, pas que, mais aussi en burn-out, et quand j'ai vu arriver les enfants, c'était les mêmes. Ils avaient à peu près le même discours, les mêmes symptômes et à peu près la même origine. Donc moi, la question ne s'est même pas posée de peser les mots ou de trouver une autre terminologie ou quoi que ça. C'était juste la transposition.
Et un phénomène qui intervient de plus en plus tôt dans la vie des jeunes.
Écoutez, moi, les premiers que j'ai eus en burn-out avaient 7-8 ans. Alors je sais que des collègues qui me disent qu'ils en reçoivent à la maternelle, moi je n'en ai pas reçu en maternelle, effectivement, ouais. Donc ça je ne me prononcerai pas dessus. 7-8 ans, moi je trouve que ouais. C'est...
Philippe, jamais c'est effrayant ce chiffre.
Non, enfin, je vois qu'il ne faut pas s'effrayer, non. Franchement, c'est, il faut y prêter attention, et ce n'est pas la même chose. On est toujours
Est-ce qu'on y prête tellement attention aujourd'hui que justement on repère plus facilement oui, des non. enfants qui il y a 10 ou 20 ans pouvaient déjà oui. présenter les mêmes symptômes.
Oui, aussi, mais c'est vrai qu'il y a un rythme beaucoup plus important, et c'est les parents qui sont eux-mêmes... Sous burn-out et vont et ou quelque chose qui s'apparente
ouais, voyez, ça devient contagieux quasiment
c'est très parce que ouais. C'est le climat émotionnel, c'est ça qui est l'important, c'est-à-dire c'est pas tant ce que vous faites, c'est dans quel climat vous allez le faire. Bon, et quand il y a une tension comme cela, c'est éminemment contagieux. Alors le burn-out, c'est bien parce que il faut pouvoir désigner quelque chose qui est une dynamique. C'est problématique si on en fait une entité, c'est pas en soi une maladie, c'est la conséquence d'un surcroît de
oui, c'est
stress,
la conséquence de plein de choses, bien
de
évidemment.
Choses.
Et c'est la conséquence aussi, vous dites, c'est quand des parents sont en burn-out, les enfants sont contaminés, contagieux ou ce que vous voulez. En fait, les parents ne sont pas forcément en burn-out, mais là où je vous rejoins, c'est que les parents, je ne veux pas dire qu'ils ont perdu pied, mais ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, c'est une origine multifactorielle sur laquelle plutôt on tire la sonnette d'alarme pour dire que les parents, aujourd'hui, sont un peu perdus.
Eh bien, on va écouter justement le témoignage d'une maman qui nous parle de son fils. On entendra d'ailleurs ce fiston juste après qui s'appelle Hugo et qui semble grignoter sur son sommeil pour avoir de meilleures notes en classe.
Progressivement, il a de moins en moins dormi. Il m'a expliqué qu'il faisait un concours de bonnes notes avec ses amis, avec ses copains, et qu'il voulait gagner. Donc à chaque fois, j'avais un compte-rendu de sa note, des notes des copains. Et c'est un peu aussi ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
Ça devenait une obsession ?
Oui, oui.
Hugo a pourtant 16 de moyenne générale. Au collège, il juge sévère la notation de certains professeurs et se met à réviser toujours plus jusqu'à l'épuisement.
J'ai trop révisé. Pour les SVT, la physique, le sport. Le sport, je ne révisais pas. Mais pour les matières comme ça, c'était de 20 à 30 minutes de révision. Pour le français, bah, c'était beaucoup plus.
C'est-à-dire ?
Trois quarts d'heure, une heure.
Voilà, Béatrice Millettre. Cet enfant va bien, enfin, il travaille bien à l'école, il n'y a pas de problème particulier, et pourtant, il semble moins dormir.
Alors,
pour essayer
enfant,
d'en faire toujours
cet enfant,
plus.
Cet enfant n'est plus en burn-out, il s'en est approché. La maman a été vigilante et a fait ce qu'il fallait pour que justement ça ne bascule pas et il n'a pas basculé. Mais il s'en approchait effectivement en travaillant de plus en plus, en grignotant sur son sommeil, en étant plus fatigué et avec une pression qui n'a pas lieu d'être.
Vous le connaissez Hugo ?
Oui.
Ouais. Il va bien ?
Il va bien Hugo maintenant.
Est-ce qu'il dort mieux ?
Oui,
est-ce
oui, maintenant
qu'il,
il va bien.
Est-ce qu'il arrête de se mettre de la pression ? Parce que c'est ce qu'on entend
oui,
hein, dans ces mots.
Non, maintenant il va bien, maintenant il va bien.
Ouais.
Maintenant, il va bien. Mais c'est vrai que, vous savez, quand je vois une petite jeune fille qui a 10 ans et demi en 6e, qui me dit, qui arrive alors, dans un état, effectivement, là, tous les symptômes y sont, et qui vous dit, bah, il faut que j'ai 20 sur 20 parce que faut faire des bonnes études, parce que faut ouais. avoir un bon métier, parce que faut gagner de l'argent, parce que ouais. sinon je vais finir SDF.
Oh là là, oui, il y a de l'inquiétude, là, dans ces propos.
Ah bah il y a de l'inquiétude. Donc effectivement, et ça on sait que la précarité est quelque chose qui fait très peur aux adultes que nous sommes, et donc on a peur pour nos enfants et on leur met la pression, ou ils se mettent la pression parce qu'ils l'entendent, parce que ce que vous voulez. Donc à un moment donné, pour moi, il faut être le décodeur en tant qu'adulte de ce qui va bien et de ce qui va pas bien, et d'expliquer que bah, le 20 sur 20, on s'en fiche un peu finalement. Mais nombre de parents, quand je pose la question « Pourquoi vous voulez que vos enfants aient 20 sur 20 ?», ils me regardent avec des yeux de Merlanfry, ils ne savent pas répondre. Hein.
Oui.
C'est juste une évidence, il faut 20 sur 20.
Philippe Jamais, on entend le climat anxiogène qui favorise justement ces comportements.
Tout est là, enfin tout est là. Vous savez, la vie, ça se joue entre deux émotions basiques. Hein. C'est pas très compliqué. La vie n'est pas seulement humaine. Hein. C'est entre la peur et la confiance. Voilà. Alors il faut que la confiance domine. Bon, ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir peur de choses dangereuses, mais il ne faut pas qu'on soit sous une pression. La peur, quand je prends une part, c'est le sentiment de menace, d'anxiété, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver. C'est ces deux émotions fondamentales, les mêmes d'ailleurs que pour les animaux. Hein. D'ailleurs, c'est des choses très, très, très basiques. Et ça devient pathogène, sinon pathologique, quand on s'enferme. C'est-à-dire quand ce comportement de peur oblige, parce qu'il n'a pas le choix, l'enfant a des comportements qui l'enferment de plus en plus dans une, comme un hamster qui se mettrait à pédaler comme cela. Oui. Et la maladie, c'est l'enfermement. Elle est l'aboutissement. C'est pas en soi une maladie, mais on devient, c'est pathogène dès qu'on s'enferme, parce que la vie, c'est pas l'enfermement, c'est le plaisir de l'échange qui doit fonder.
Ouais, mais ce qui est étonnant quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans une éducation où les contraintes sont moins importantes, où il y a une autorité en tout cas qui est moins importante, les enfants semblent se mettre eux-mêmes des contraintes.
Oui, mais si ils les mettent là tout seuls, c'est parce que c'est l'ambiance, et notamment les parents, c'est déplacé à un autre niveau. Il faut que tu y arrives, parce que regardez comment on parle de l'école, tu vas pas y arriver, ça aboutit à l'échec, il y a que les 10% qui vont réussir, enfin, il y a tout un climat anxiogène, exagéré. Alors, qu'il y ait une certaine pression, c'est bien, vous voyez, tout est une question de jeu, d'équilibre.
Mais moi, je rajouterais, il n'y a pas que la peur, vous dites la peur et la confiance, et ce qui va, moi, dans ce que les enfants me disent, et ce qu'on voit de la même façon chez les adultes qui font un burn-out, justement, c'est la perte du sens. C'est qu'ils ne comprennent plus. Parce que quand on voit, et pour moi, ça, c'est assez nouveau, des enfants qui ont 15 sur 20, qu'on envoie au soutien scolaire, en leur disant, en leur rendant la copie, ta copie est mauvaise, toi, tu viens au soutien. Un autre, un jeune qui a 13, 14 de moyenne générale, et qui a coup sur coup avertissement de travail parce que ça va pas. Ça, c'est assez nouveau de la part des enseignants aussi, de vouloir encore plus des enfants. Et plus que la peur de ne pas réussir, moi, pour moi, une des causes fondamentales aussi du burn-out, qui est pas juste de l'anxiété et pas du stress, c'est ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils ne savent pas ce que ça veut dire y arriver. Et quand ils travaillent, on leur met un avertissement de travail, on les envoie au soutien, avec 15 sur 20. Qui était la plus faible note de ce petit garçon, il avait entre 15 et 18. Et comment voulez-vous qu'il comprenne? Et là, c'est même pas la peur, c'est l'incompréhension.
Allez, on va y revenir ensemble dans un instant. Je voudrais juste signaler aux auditeurs que depuis le début de la semaine, le site internet de toutes les émissions de France Inter a changé et que les commentaires ont disparu, mais vous pouvez quand même converser avec nous en attendant qu'ils ne reviennent, d'ailleurs ces fameux commentaires dans quelques jours, en allant sur la page de l'émission du jour. Il vous suffit de cliquer sur contact, c'est très simple, et vous avez une page mail qui s'affiche où vous pouvez nous laisser tous vos messages. Le plus simple est également d'aller sur Twitter ou sur Facebook à la page de la Tête au Carré. Voilà, sur le contact donc de l'émission du jour pour parler des enfants sous pression, dossier qui se poursuit dans un instant avec Béatrice Millettre et Philippe Jamais. Rolling down Imperial Highway, the big nasty red at my side, Santa winds blowing hot from the north, we were born to ride. Roll down the window, put down the top, crank up the Beach Boys, baby, don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side, baby, to the valley, from the west side to the east side, everybody very happy, cause the sun is shining all the time. It's like another perfect day. Randy Newman sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Béatrice Millettre, psychothérapeute, et Philippe Jamais, professeur de psychiatrie, sont nos invités donc pour parler de nos enfants sous pression avec ce livre, Le Burn-out des enfants chez Payot pour Béatrice Millettre. Et puis Grandir en temps de crise chez Bayard pour Philippe Jamais. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et sur Facebook. Et puis également une autre adresse, tiens, que je vous donne pour nous écrire. La tête au carré at radiofrance.com. C'est facile à retenir et vous pouvez nous envoyer tous vos messages et vos témoignages. La tête au carré tout attaché at radiofrance.com. Comme les symptômes du burn-out infantile, Béatrice Millettre, quels sont-ils?
Alors, on commence par l'épuisement nerveux, hein, c'est la traduction finalement de l'anglais. Ouais. Donc on a des enfants qui sont épuisés nerveusement, c'est-à-dire que...
Grosse fatigue
à des moments où ils ne devraient pas l'être, ou habituellement dans les mêmes circonstances ils ne le sont pas, donc au hasard en revenant de vacances par exemple, donc ils sont très fatigués, des problèmes de sommeil... Et avec des nuits, moi j'ai vu un petit bonhomme, il avait plus 7 ou 8 ans, il dormait 5-6 heures, donc c'est pas beaucoup. Donc ça en rajoute. Et quand vous demandez, question idiote, hein, mais tu veux pas aller à l'école parce que t'as pas fait tes devoirs, parce qu'il y a un contrôle demain, il y a eu un truc dans la cour, il s'est passé quelque chose. Non, non, rien du tout, il y a rien du tout. Ils sont très contents d'aller à l'école, justement, à ne pas confondre avec la phobie scolaire, hein, c'est pas du tout pareil. Et ils ne dorment pas, donc on a ça. On a des enfants qui sont très irritables, qui sont à fleur de peau, qui ont les larmes aux yeux, qui ils savent même pas pourquoi, et qui savent plus raisonner, dont le cerveau marche plus très bien. Vous avez beau leur expliquer ce que vous voulez, ça rentre plus.
Mmh. Vous décrivez également le désinvestissement, la peur de l'échec.
Oui, alors ça c'est lié, mais la frontière du burn-out c'est là, c'est vraiment l'épuisement nerveux. Mmh. Le reste, c'est, alors le désinvestissement, c'est quand vous en avez qui effectivement travaillent et qui ça ne donne pas de résultat. Moi, j'ai eu comme ça un jeune, il me dit, bah oui, vous savez, j'ai travaillé un quart d'heure pour mon contrôle de je sais pas quoi. On m'a dit, travaillez plus, le coup d'après, j'ai travaillé 2 heures, et je suis passé de 13 à 13,5.
Ouais.
Bon, c'est pas très efficace. Et là, rebelote, on lui dit, t'as pas assez travaillé en plus. Bon, donc effectivement, le désinvestissement, il est là. Vous avez encore une fois des enfants qui ne comprennent pas. Qui comprennent pas les consignes, qui comprennent pas, on leur demande de pas faire de faute d'orthographe, et moi j'ai vu, parce qu'on m'apporte les copies, les cahiers, des enseignants qui, bon, alors qui laissent passer des fautes dans les corrections, ça si on veut, mais qui en rajoutent. C'est-à-dire là où vous n'avez pas fait une faute, et on vous dit, bah ça c'est faux, parce que l'enseignant elle-même ne sait pas. Donc c'est encore une fois cette incompréhension-là, qui fait que, ils doivent être parfaits, mais les adultes référents, que sont les enseignants, ne le sont pas.
Philippe Jamais, on trouve des troubles physiologiques également, qui découle directement de ce qui vient d'être décrit.
Bien, tout ce qui est décrit, vous savez, c'est pas une idée, c'est pas eux qui le décident, ils décident en rien, ça s'impose à eux. Donc tout ça, c'est cérébral, d'ailleurs, c'est tout le problème, on a vu des troubles mentaux qui ont rien de mental.
Ouais. Parce
que c'est toujours physique, des troubles émotionnels, bien sûr que c'est un support.
Mais ça se traduit par des douleurs aussi concrètes.
Oui, aussi, par un malaise, par des tensions, mais comme tous ces troubles sont particulièrement sensibles à la qualité de la relation. Et c'est au fond, à la relation extérieure, au contexte, de rétablir, justement, de l'aider à rétablir un équilibre. Ne pas... Et comment ? Eh bien, par retrouvant du plaisir et en donnant du sens à ce qui se passe. Mais oui, là, c'est vrai, on a un peu exagéré, tu vois, là, mais tu vois, il faut l'aider à donner du sens, bon, mais ne pas tout de suite l'enfermer. C'est pas une maladie qui se déclarait comme issue d'un virus ou d'un microbe, c'est un constat d'une surpression.
C'est un contexte.
Voilà. Qui donne à l'enfant un sentiment d'impuissance, et en cela je parle de peur, de menace, c'est-à-dire ça le déborde, il comprend plus, et plus il sent qu'il est débordé, plus ça l'inquiète. Et voyez, il y a une espèce de panique, et si l'entourage ne comprend pas ça, et au contraire le force, il dit vas-y, etc., ben, il va se noyer de plus en plus. C'est comme si vous étiez submergé par une vague. Il faut vous retirer de la vague, monter quand vous respirez, et puis après peut-être que tu pourras replonger, traverser la vague. Mmh. Oui.
Larry sur Twitter demande si les enfants hyperactifs et ou surdoués sont plus souvent atteints de troubles anxieux, justement. Béatrice Millettre.
Alors, surdoué ne veut pas dire hyperactif. Hein.
Ouais.
Ou, voilà, et où. Oui, et où. Hein. Et où, parce que ça, c'est un débat aussi. Ouais. Alors, les surdoués, les précoces, les hauts potentiels, oui et non. S'ils sont bien... Un précoce, c'est un enfant qui a un fonctionnement différent. C'est pas un plus intelligent. Il a un fonctionnement intuitif. Donc, ce fonctionnement intuitif, soit... Il a su faire avec depuis qu'il est tout petit, ou on l'a accompagné à faire avec, et là tout va bien pour lui, il y en a des tas, des milliers et des millions qui vont très bien. S'il ne sait pas, effectivement, à un moment donné, il est plus sensible au burn-out parce que, encore une fois l'incompréhension, il ne comprend même plus ce qu'on lui demande. Et quand vous en voyez qu'ils sont en CE2, CM1, et que vous dites, mais 10 plus 2, ça fait combien? Alors là, ils vous répondent n'importe quoi, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'à cet âge-là, on leur demande quelque chose qu'on leur demandait déjà en maternelle.
Ouais, et on voit là des échecs scolaires.
Donc c'est le piège.
Hein,
donc c'est le piège et ils ne répondent plus. Et donc là, oui, c'est l'échec scolaire et c'est aussi l'épuisement parce qu'ils essayent de comprendre. Et l'exemple, c'est vraiment l'ordinateur. Vous donnez deux ordres différents, contradictoires, et il explose. Ouais. Ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Et ces enfants-là, oui, à un moment donné, sont plus vulnérables. C'est pas pour ça qu'ils vont tous craquer.
Oui, Philippe Jamais.
Oui, vous voyez, tout ça, c'est une dynamique. Ce que je veux dire, c'est pas un état, c'est pas voilà une structure, c'est une dynamique. Certains sont plus disposés à cela parce qu'ils ont souvent plus de rapidité ou plus de sensibilité. Et c'est une force, c'est-à-dire qu'il faut voir que derrière toute difficulté, les enfants qui ont un burn-out, c'est aussi des enfants qui sont peut-être plus sensibles que d'autres à la réaction de l'environnement. Et ça peut être un atout. Il faut voir que derrière tout ça, cette sensibilité est aussi un atout. Et qu'à un moment donné, s'ils sont débordés, comme tout le monde, si vous perdez pied quand vous nagez, vous vous affolez et puis vous finissez par risquer de vous noyer. Mais c'est pas en soi, l'affolement n'est pas une maladie en soi. Elle est un comportement d'adaptation à une situation qui nous déborde. Et c'est parce qu'elle nous déborde qu'il faut que le contexte, c'est-à-dire l'environnement, en comprenne le sens, dédramatise, accompagne l'enfant et n'en voit pas tout de suite l'idée que c'est un trouble, une maladie en soi ou la faute à l'instituteur. Sortir de cette instrumentalisation qui est quand même un des dangers.
Ouais. Alors, vous mettez en garde effectivement sur les dérives aussi de ces mots qu'on pose.
L'information, c'est important, c'est un avantage considérable de savoir que son enfant peut être comme ça et de ne pas s'affoler et de prendre les mesures. Et comme tout, ça peut, je dirais, se pervertir entre guillemets, c'est-à-dire s'instrumentaliser. C'est-à-dire, c'est ça, alors c'est la faute à l'école, et on a fait ceci, ou on a fait cela, et on va renforcer le comportement anxiogène. Alors qu'il faut qu'on arrive à dire, voilà tout ça, il faut parler en termes de conduite adaptative.
C'est-à-dire qu'il faut que les parents jouent leur rôle de parents.
Ça, c'est facile à dire.
Voilà, alors, c'est facile à dire.
Et on en fait quoi après ça?
Non, mais ça veut. Oui, on est bien d'accord.
Débrouillez-vous avec ça.
Débrouillez-vous avec ça.
On peut terminer là-dessus.
Non, ça veut dire qu'effectivement, les parents sont là pour accompagner leurs enfants.
Oui, oui.
Alors, effectivement, c'est facile de le dire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est aussi le miroir de machin, etc. Ce que vous voulez. Donc, à un moment donné, c'est pas facile d'être parent. Mais ça serait. Il n'y aurait aucun problème si on accompagnait nos enfants dans leurs différences, dans leur personnalité.
C'est une base de confiance.
Dans leur singularité, tout simplement.
Prenez le film Vice Versa. Vous voyez, quand on devrait présenter. À l'école, d'ailleurs.
Oui, ça, on devrait le présenter à l'école, tout à fait. Il est merveilleux, ce film.
On ne contrôle pas tout ça, que c'est plus fort que nous. Et voir ces bases de confiance, le couple parental, et s'il se fracture, si on
en parlait hier dans l'émission, justement, de ce film pour évoquer le cerveau avec Jean Dizier.
C'est important de maintenant de comprendre. Si on comprend nos contraintes, ça nous libère un peu.
On va écouter le témoignage d'Eliott, qui, lui, prend des cours de soutien pour faire toujours mieux.
On a une somme à la base, donc par exemple AB plus AC.
Face à son ordinateur, Eliott Kuhn suit un cours de soutien en mathématiques par visioconférence.
Si on écrit, alors A plus B, on peut l'écrire en fait.
Une heure par semaine ou avant ses contrôles. Pourtant, cet élève de 4e a 15 de moyenne générale. Aucune difficulté à l'école. Mais à 13 ans, il pense déjà à son avenir.
Ça me permet quand même d'avoir des meilleures notes et... Après, si le 4e, ça commence à rentrer dans le dossier si je veux rentrer dans un bon lycée. On a tous un peu des envies pour plus tard et on essaie aussi d'avoir des bonnes notes. Il y a un peu de concurrence, donc ça aussi, ça met la pression de temps en temps.
Une concurrence qui pousse, comme lui, un collégien sur 5 à suivre des cours de soutien. Les parents tentent d'armer leurs enfants pour survivre dans un monde concurrentiel, un monde où il faut être performant.
Alors la performance justement, au point de pouvoir en être malade aussi, est-ce que là il n'y a pas justement une dérive de la part des parents qui veulent trop pousser leur enfant à toujours faire mieux alors que là on voit aussi qu'il n'y a pas de problème.
Parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, encore une fois, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas leur jeter la pierre, chacun fait du mieux qu'il peut et qu'il pense faire. Maintenant pour moi il y a aussi une grande réalité, c'est qu'on était au passé, un pays où très... avec les grandes écoles, avec les grandes études, etc. Et on a valorisé ça beaucoup, justement, pour ne pas tomber dans le chômage. Alors, aujourd'hui, je reçois aussi des jeunes, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils sortent d'une grande école, les grandes parisiennes en commerce, pour ne pas les nommer, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un CDD, on leur dit on va t'embaucher, on les embauche pas, après leur stage. Donc, c'est pas une garantie aujourd'hui de trouver un travail d'avoir fait ces grandes études-là. Et moi, je trouve qu'il faut apprendre à nos enfants à être capables de retomber sur leurs pattes, à leur dire que de toute façon, s'ils ont envie de faire quelque chose, ils le feront. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un comme ça qui voulait faire l'école vétérinaire, qui n'a pas eu le concours de l'école vétérinaire, qui va faire l'université dans un autre pays d'Europe et qui sera vétérinaire. Donc on a des moyens, on a mille et un moyens de retomber sur nos pattes. Et c'est ça, je crois, qu'il faut dire à nos enfants. Il faut les encourager à aller dans leur direction. À eux, s'ils veulent être restaurateurs, moi j'ai un petit, il veut être luthier. Mais c'est pas exactement comme ça. Ils sont venus avec ses parents et les parents disent il va faire une première S parce que ingénieur ça sera bien pour lui, il est bon en maths. Et puis dans la conversation, petite phrase anodine, le père me dit mais il vient de terminer de construire sa guitare tout seul. Tout seul. Voilà, moi je pense qu'il va être luthier ce garçon-là.
Philippe Jamais.
Oui.
Est-ce qu'il ne faut pas apprendre aussi aux enfants à avoir un petit peu de temps juste pour eux et ne pas pouvoir toujours...
Oui, mais tout ça, c'est une question, vous voyez, de bon sens, mais enfin, c'est ce qui est le plus mal réparti.
Oui, bon sens, bien sûr.
Et d'équilibre,
oui.
Bon, voilà. C'est-à-dire que ça doit, il faut apprendre. La vie, c'est une co-construction. Vous ne pouvez développer vos possibilités que dans l'échange. Elle ne se développe pas tout seul. Le cerveau ne se développe pas tout seul. Donc, c'est l'échange. Et en même temps, il faut que cet échange, le plaisir, ait une place.
Mais on
et
peut apprendre à s'ennuyer aussi. On peut apprendre à s'ennuyer. Parce que là, on voit tous ces enfants qui ont des agendas de ministres.
Apprendre à s'occuper.
C'est très important. Voilà. Oui. Mais à pouvoir supporter l'ennui et en faire quelque chose.
Exactement.
C'est-à-dire, je vais moi-même choisir des choses. Et c'est tout ce, vous voyez, c'est, il faut mettre du jeu. Au fond, la vie psychique, c'est une capacité de jeu. C'est éviter le frontal. Travaille un peu plus ou ne travaille pas. Non, ils travaillent. Et que certains veulent travailler plus pour avoir les meilleures notes,
oui.
Ça dépend dans quel climat ils le font. Hein, si c'est en effet quelque chose qu'ils peuvent assumer dans un climat où ils sont motivés pour le faire, c'est comme pour les grands sportifs. Et puis à un moment donné, ça peut devenir très excessif et ça devient à ce moment-là destructeur. Si ça commence à être destructeur, là, il ne faut pas attendre que ça le devienne. Si on voit qu'on s'enferme de trop et que ce n'est plus une source de plaisir, mais de tension trop excessive. Là, on va remettre quoi ? Du jeu.
Thierry, sur Facebook, justement, demande de mon fils joue aux jeux vidéo pour ne plus penser à ce qui l'entoure. Est-ce que je dois le laisser faire ?
Mais oui, en partie, mais pouvoir en parler avec lui. Vous voyez, c'est pas d'essayer, c'est pas en tout ou rien, je fais ou je laisse faire pas. C'est l'accompagner, c'est-à-dire voir ce qu'il
y
trouve.
C'est l'accompagner, oui.
Voilà, le pouvoir en parler, voir ce que ça représente pour lui et éviter qu'il s'enferme. Mais pas
c'est-à-dire,
le couper
s'il
directement.
N'y a plus que des jeux vidéo, ben voilà. Ça ne va pas. Mais on peut pas faire en sorte que nos enfants n'aient aucun jeu vidéo non plus. Donc c'est ni bien ni mal, c'est la proportion, c'est l'accompagner.
Lui dire montre-moi, et voilà. Qu'est-ce que t'en tires.
Et c'est d'apprendre, je crois, à nos enfants à être eux-mêmes. Je veux dire, moi j'ai reçu il y a une semaine, une jeune femme, une trentaine d'années, qui me vient me voir en disant, je ne sais pas qui je suis. Je voudrais que vous m'aidiez à trouver ma place. Elle me dit, on m'a forcé, mes parents m'ont fait faire du piano, mes parents m'ont fait faire sport-études. Je suis rentrée dans une prépa, j'ai fait une grande entreprise, machin, et aujourd'hui je ne sais pas ce que j'aime. Elle n'a jamais eu le droit d'être elle-même, cette jeune femme-là.
Être soi-même, c'est un sacré programme aussi.
Oui,
hein.
c'est un sacré programme.
Il faut se débrouiller aussi avec ça.
Mais peut-être qu'elle est plus qu'elle le croit d'ailleurs.
Certainement, voilà. Certainement.
C'est-à-dire, dès qu'on a acquis quelque chose, on peut jouer. Si vous n'avez rien appris, bon.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie d'émission. Et les auditeurs qui ont trouvé la bonne adresse pour nous joindre, latetecarré@radiofrance.com. Et ça marche, figurez-vous.
Oui, évidemment.
Des messages pour vous, dans quelques minutes.
C'est la meilleure adresse.
Merci Philippe Jamais.
Woke up in the morning. My dreams were real and wild. I opened up my eyes and I found out I was a turtle, and my world turns upside down. Never tell the truth when the booze is in the blood, 'cause your words will taste like mud. I feel like a dog with a tail of lust. I'm chasing a ghost. Better to dance like a goose than to swim in the booze. To dance like a goose than to swim in the booze. save me with your body. Your body, the fruit of love, the fruit I adore. Oh, better to dance like a goose than to swim in the booze. Oh, better to dance like.
Dance Like a Goose avec Arnaud sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Allez, Béatrice Millettre et Philippe Jamet pour la dernière partie de cette émission consacrée aux enfants sous pression et les messages des auditeurs. Alors, ça râle du côté des enseignants, Béatrice Millettre. Evelyne nous dit, et voilà, encore la faute des enseignants. Monique nous dit, je suis assez stupéfaite d'entendre qu'on mette un avertissement de travail à un enfant qui a 15 de moyenne. Je suis prof de maths, j'atteste qu'on ne donne pas d'avertissement à un élève ayant une telle note chez nous. Je trouve votre intervenante bien péremptoire vis-à-vis des enseignants. Tous les enseignants que je côtoie sont bienveillants à l'écoute de leurs élèves, les encouragent au maximum et sont vigilants quant au stress et à la pression que certains ressentent. Le message n'est pas passé.
Et c'est vrai qu'on m'a déjà fait le reproche. Un enseignant m'a envoyé un mail pour me dire la même chose. Alors moi, j'admire beaucoup les enseignants. Hein, donc j'ai pas du tout l'impression de leur taper dessus en disant qu'ils sont tous très mauvais et tous ce que vous voulez, ni d'être péremptoire sur le sujet. Mais enfin, si c'est ce qu'on ressent, je vais faire attention. Parce que vraiment, c'est pas ce que je pense. Et quand je dis ça, je dis il y a des enseignants. C'est certainement pas tous. Moi, je connais le système éducatif. Je reçois des enseignants et je travaille avec certains autres. Je travaille dans un collège justement, dans un groupe de réflexion sur pour les aider à accompagner les enfants. Donc, j'ai pas du tout ce sentiment-là quand je parle des enseignants. Vraiment, c'est un métier. Je les trouve extraordinaires. Mais, parce que je maintiens ce que j'ai dit, moi j'ai vu les avertissements de travail, c'était pas à 15, c'était 13 ou 14 en moyenne générale, et l'enseignant qui envoie en classe de soutien son élève avec une copie à 15.
Bon, vous avez donc vu ça, un cas.
J'en ai pas eu que un, j'en ai eu plusieurs.
Allons bon.
Voilà. Mais ce ne sont pas tous les enseignants, heureusement.
Bon, Philippe Jamet.
Oui, bien sûr que tout ça, il faut pas, tout est dans l'enfermement, il faut vraiment ouvrir. Alors c'est vrai qu'à un moment tous, on est capable un petit peu d'exagérer dans un sens, dans l'autre. Tout ça, c'est ce qu'on en fait, mais il faut comprendre quand même que, disons, il faut vraiment donner du sens dans tous ces métiers-là à ce qu'on fait, comprendre que c'est permettre l'épanouissement de l'enfant avant tout. Et pour ça, il faut à la fois qu'il travaille et en même temps qu'il en comprenne le sens et qu'il ait du plaisir. Mmh. Plus facile à dire qu'à faire. Mais le climat, c'est une question de climat, bon, de tension, ouais. Et aussi bien au niveau familial qu'au niveau de l'école, il y a des moments, il y a des classes qui sont plus sous tension que d'autres, avec des compétitions, de la part une ambiance, vous voyez, plus où la compétition prime sur l'échange et le partage.
Il y a Catherine justement qui nous envoie ce message, elle est enseignante de CM2 dans une grande école de la banlieue de Bordeaux. Je suis effarée, écrit-elle, de voir la quantité d'activités auxquelles mes élèves participent. Ça commence à midi, ça se poursuit jusqu'à assez tard dans la soirée et les week-ends. Certains enfants ont jusqu'à 20 heures de sport, de jeu organisé, d'activités culturelles toutes les semaines, et des parents qui me demandent encore des devoirs supplémentaires.
Oui, c'est invraisemblable. Ils n'ont plus aucun temps. Ils courent d'une activité à une autre. Je peux vous dire, j'ai une petite fille qui me disait, moi je resterais bien chez moi à jouer l'après-midi, à inviter les copines. Et elle me dit, mais c'est pas possible, si je veux voir mes copines, il faut que j'aille aux activités, parce que sinon je peux jamais les inviter, elles sont, elles, toujours occupées. Et donc l'aspect social, elle était obligée d'aller aussi faire des activités pour s'amuser.
Un exemple, à Lucerne en Suisse en 2014, une initiative justement de certains parents pour demander moins de cours de langue pour les plus jeunes, parce qu'ils les considéraient comme trop sollicités.
Hallo, ich heiße George. Bonjour, je m'appelle George. J'ai 10 ans. I'm 10 years old. Ich bin 10 Jahre alt. I speak English at home, French at school, and I've been learning German from when I was 8 years old.
Aujourd'hui, l'enseignement de deux langues étrangères commence en troisième et en cinquième année primaire. Mais dans quelques cantons germanophones, certains estiment que la pression est trop forte pour les jeunes enfants de l'âge de Georges. Ici à Lucerne, on a lancé une initiative populaire pour changer la loi.
Nous avons observé qu'environ un tiers des enfants trouvent que c'est trop, deux langues étrangères au niveau primaire. Il y a d'autres branches que les langues dans lesquelles ils doivent faire de gros efforts.
Le professeur Martin Meyer, qui enseigne la psychologie à l'université de Zurich, n'est pas de cet avis.
Si quelqu'un est exposé à des langues étrangères pendant quelques heures par semaine, il s'habituera à les entendre et se familiarisera avec elles. Ils ne seront pas trop sollicités, mais ne pourront que profiter de cette proximité.
Voilà, Philippe Jamais. Désaccord hein, entre les psychologues et les parents
bien
sur
sûr,
cet exemple.
Bien sûr, parce qu'il n'y a pas une vérité. C'est comment on va le faire. Et probablement que ça ne s'applique pas non plus de la même façon à tous les élèves. On n'a pas tous les mêmes disponibilités pour certains apprentissages.
Mais là, il est intéressant cet exemple, parce que c'est un âge où le cerveau, on en parlait justement hier, est en pleine formation.
Oui, dans l'ensemble, le bilinguisme très tôt est une bonne chose. Seulement, il faut, ça dépend dans quel climat c'est fait, et que font les parents? Si les parents à côté ne peuvent pas accompagner, ça ne peut pas s'appliquer comme ça uniformément par décret. Il faut voir les conditions.
Oui, si vous voulez, nous en France, on enseigne l'anglais maintenant dès l'école primaire, sauf que ce sont les enseignants eux-mêmes qui font ça. Ils ne sont pas forcément, enfin, ils sont pas forcément formés, ils ne parlent pas forcément eux-mêmes anglais et ils apprennent l'anglais. Moi, j'ai l'exemple en ce moment d'une classe où, comme il y avait tellement de chahuts, ils apprennent l'anglais uniquement à l'écrit. Ça ne sert à rien.
Stéphane,
c'est les conditions.
Voilà,
quelles sont les conditions, on est bien d'accord.
Allez, des messages des auditeurs pour terminer pendant les 4 minutes qui nous restent. Stéphane sur Twitter demande, est-ce que l'élite à la française n'est pas en partie responsable de cette surpression autour des enfants aujourd'hui?
Si, ça a pu jouer. Il y a c'est vrai, un aspect comme ça de très, très, pas assez diversifié, pas assez, en donnant pas un rôle suffisamment actif. Bon, et promoteur à l'enfant. Mais c'est de manière générale, ça évolue quand même. Et en même temps, c'est pas en tout ou rien. Si vous voulez, qu'il y ait aussi, là, un certain élitisme, qu'il y ait une concurrence, c'est bien. Encore une fois, c'est comment ça se fait, dans quel climat. Et là, il faut pas, on peut pas tout uniformiser. Mais ce qui est important, c'est qu'on sache les risques et que quand on voit qu'on est en train de se mettre en impasse, que ce soit pour un élève ou pour l'ensemble de la classe, on est capable de se dire, eh ben, il faut qu'on revoie les choses. C'est pas une accusation qui est portée. Tout le monde, on n'a pas une recette parfaite, sinon ça se saurait. Donc acceptons de nous remettre en question et de jouer un peu, de remettre du jeu quand on sent que ça devient...
Vous insistez beaucoup là-dessus, beaucoup, Philippe Jamais.
Le jeu, pour moi, c'est ça la pensée.
Mais Philippe a raison, il faut s'amuser dans la vie.
C'est ça le propre de l'homme.
Il faut s'amuser.
C'est de dire, je peux penser ça, mais aussi
mais c'est vrai
cela.
qu'on a des écoles très élitistes, pas forcément les grandes écoles, on a des lycées élitistes,
bon
on a des lycées privés archi-élitistes.
Un message de Grégoire sur Twitter, où en sommes-nous par rapport aux pays comme le Japon ou la Corée du Sud? Est-ce qu'on doit s'alarmer ou bien est-ce plutôt rassurant d'être en France aujourd'hui?
Mais là aussi, ça varie d'ailleurs dans ces pays. On voit bien que c'est pas comme ça uniforme. Il y a des choses qui sont plus positives. Il faut pas être tout le temps, il faut se comparer, mais pas pour, toujours en plus, en moins, pour chercher à apprendre chez les autres des choses qu'on ne fait pas, pour s'ouvrir davantage, pour jouer un peu davantage, et pas sans arrêt dans le plus ou le moins, vous voyez. Parce que là, on retourne à la compétition.
Pour répondre à cet auditeur, je dirais qu'on n'est pas au niveau, même si c'est réducteur de dire ça, on n'est pas au niveau du Japon ni de la Corée, bien évidemment. Mais il ne faut pas s'en réjouir, il faut s'alarmer pour justement qu'on ne les rejoigne pas. Pour qu'on fasse s'alarmer dans le sens, non pas juste dire « là, il n'y a rien qui va, ma pauvre dame », mais de dire « trouvons les solutions pour que ça ne s'aggrave pas ».
Béatrice Millet, le burn-out des enfants, comment éviter qu'ils ne craquent, c'est chez Payot et puis chez Bayard, à Philippe Jamais, deux ouvrages, « Grandir en temps de crise », comment aider nos enfants à croire en l'avenir. Et puis « Adolescents d'aujourd'hui, ils vont bien, merci ». Et merci à tous les deux d'être venus.